Cette semaine à 100 commentaires ou presque, suite et fin des péripéties de la 24e aventure du plus intrépide des agents secrets britanniques. Venez nous rejoindre de l'autre côté du spectre pour découvrir tous les rebondissements aussi spectaculaires que discutables qui nous attendent encore. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite à nouveau la bienvenue à 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Mes chers auditeurs, je suis vraiment content que vous soyez de retour avec nous pour la deuxième partie de notre épisode sur Spectre. Mon invité, Gabriel Turpin-Crête et moi-même, on est fin prêts à nous replonger dans le film pour discuter de tout ce qui attend encore Bond dans sa mission. Préparez-vous entre autres à l'arrivée de nouveaux personnages, à d'autres séquences d'action rocambolesques, à des révélations choc et à d'autres voyages dans quelques pays exotiques. Parlant de voyage, lorsqu'on s'est quitté la dernière fois, Bond était sur le point de mettre le cap sur l'Autriche pour aller à la rencontre du fameux roi Pâle, afin de découvrir la vérité sur l'organisation secrète qui semble être dirigée par un homme qui provient directement du passé le plus intime de l'agent 007. Donc sans plus attendre, débutons dès maintenant la dernière partie de notre conversation sur Spectre. Le film Spectre, l'année 2015, réalisé par Sam Mendes et mettant en vedette Daniel Craig quand il était encore heureux de jouer le rôle de Bond, Léa Seydoux, sans ses cheveux bleus, Ralph Fiennes, avec sa belle posture, et Christoph Waltz, qui joue encore le rôle de méchant. Oups, désolé d'avoir gâché le punch. On se déplace en Autriche. Bond a réussi à trouver la cachette secrète de notre ami Monsieur White. Alors, il va aller le retrouver et dans son espèce de manoir, plutôt de chalet, décrépit, il va trouver un Monsieur White, mais complètement malade, avec quelques jours à vivre, qui est vraiment comme genre, les yeux injectés de sang, ouais. Barbu, comme tu disais, avec vraiment une intraveineuse en tout temps dans les veines. Et il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur White va expliquer qu'il a désobéi cette organisation secrète-là, parce qu'il était illogiquement plus d'accord avec ce qu'il faisait. Alors, l'organisation secrète lui a mis un poison, un thallium dans son téléphone cellulaire, qui fait en sorte qu'avec le contact permanent, ça fait en sorte que ça l'a empoisonné et ça va le tuer dans quelques jours. On va apprendre également que Monsieur White s'est mis en espèce d'isolation comme ça pour protéger quelqu'un. Alors, Bond le questionne et on découvre que Monsieur White a une fille.
Pas une fille!
Madeleine, apparemment. Bond lui propose la protection de Madeleine en échange de, encore une fois, de l'information qui est cette organisation-là. Finalement, White y pense un petit peu et accepte de confier la vie de sa fille, la protection de sa vie à Bond en échange de ces informations-là. On va écouter un peu la conversation et la promesse qui se passe entre Monsieur White, quand même un personnage important dans cette version-là de Bond, et Bond lui-même.
Oui.
Vous ne la trouverez pas. Elle est intelligente. Elle est plus douée que moi. Elle sait se cacher.
J'ai les moyens de la protéger, si vous me dites où il est. Elle restera en vie avec moi.
Oui.
Je vous en donne ma parole.
Votre parole? La parole d'un assassin? Sauvez-la. Elle vous conduira à l'Américain, elle connaît l'Américain. Essayez à l'Offleur Clinique.
Boum, balle dans la tête.
Oui.
Donc, maintenant que Bond sait, a deux pièces du puzzle de plus, c'est-à-dire il doit aller retrouver Madeleine, la fille de Monsieur White, et il doit trouver un contact ou une personne qui s'appelle, qui se fait connaître sous le nom de l'Américain.
L'Américain.
Pour aller chercher l'information, il va aller directement à la source, retrouver Madeleine dans la clinique dans laquelle elle travaille. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, justement, juste l'emplacement de la clinique puis le design, c'est une belle référence à, justement, on en parlait au service secret de Sa Majesté, où est-ce que la fameuse clinique contre les allergies de Monsieur Blofeld, parce que Bond, écoute, va swinguer assez solide là-dedans. Eh bien, c'est exactement une belle référence à ça. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que si vous le regardez à la maison, posez-vous la question, la clinique où Madeleine travaille, elle sert à quoi cette clinique-là? Parce que je sais qu'il y a l'air d'avoir des entretiens psychologiques, puis un bar santé.
Ouais.
Puis à part ça, c'est quoi?
Je pense que c'est une détoxification.
Ouais, peut-être.
De séjour dans les Alpes autrichiennes. Te dire, ah oui, mais je pense que j'aimerais voir une thérapeute tout en buvant une espèce de smoothie Steven. Ouais, ça a l'air d'un gars qui a vidé sa tondeuse dans son assiette, comme dirait François Pérusse.
Puis, ben c'est ça, les deux vont se rencontrer. Bond va se faire passer pour un patient. Bond va essayer de la cuisiner un petit peu. Lui révèle que ultimement qu'il connaissait son père, que son père est mort et qu'il est chargé de la protéger. Elle refuse de croire ça. Voit Bond comme une menace, alors elle lui dit « sacré le camp ». Donc, Bond accepte et s'en va au fameux bar santé et rencontre Q, qui est là, qui est venu voir Bond simplement pour lui dire de finalement rentrer parce que le fameux 48 heures qu'il a donné avec le Smart Blood est venu à sa fin depuis très longtemps.
Eh oui.
Et M est au courant que Bond n'est peut-être pas à Londres comme il l'a demandé. Alors, Q décide d'aller chercher Bond pour lui dire « regarde, ramène-toi, sinon mon poste est en jeu, ma carrière est en jeu ».
Oui, puis en plus, il l'avait protégé. Q avait menti à M. Il avait dit que James Bond était à Hyde Park, dans le cœur de Londres.
En fait, il n'était pas à Chelsea, quelque chose de genre.
Ah non, il disait qu'il était dans Hyde Park. Probablement qu'en anglais, c'était Chelsea, je sais pas trop. Là, mais
oui.
Dans tous les cas, mais je le vois, il est à Hyde Park.
Hyde Park.
Puis, alors qu'il voit très bien qu'il est en Autriche. Alors, il a décidé de se pointer.
Pendant que les deux parlent, on voit Monsieur Inks qui débarque avec ses goons pour aller enlever Madeleine plutôt. Alors, Bond va se mettre aux trousses de cette gang-là pour aller récupérer Madeleine. La seule affaire que je me demande, parce qu'au départ, il y avait une autre petite scène qui se passait dans le chalet de Monsieur White, où est-ce qu'il y a des caméras de sécurité. On voit Monsieur Inks qui découvre la dépouille de Monsieur White. Mais là, maintenant que Monsieur White est mort, c'est-à-dire que c'était Inks qui était supposé l'éliminer, pourquoi il part après Madeleine? Parce qu'elle est encore vue comme une menace parce qu'elle détient les informations, mais jusqu'à...
Ça va dans la même logique que la raison pour laquelle il pourrait tuer Donna Lucia Sciarra. Donc, d'éliminer les membres de la famille de cette personne-là. Puis, dans le fameux petit chalet de Monsieur White, il y a des caméras de sécurité qui lui permettent de se rendre compte que finalement James Bond était présent. Puis là, il peut le suivre. Ou en fait, il peut se dire, d'accord, Bond était là.
C'est vrai, t'as raison. Et là, il a pu regarder la conversation puis voir que Bond est après Madeleine, qui connaît beaucoup plus qu'elle semble en dire sur cette organisation.
Exactement. Donc là, elle pourrait constituer une menace sachant ça. Bon, évidemment, on voit pas la scène.
C'est ça, mais on vient de créer un meilleur film en 2 secondes que le résultat final. On vient vraiment
mais c'est très subtil. Puis c'est peut-être trop subtil, en fait, parce que Hinks regarde la caméra et sourit. C'est-à-dire qu'il regarde la caméra de sécurité qu'il y a dans le chalet. Mais ça prend quand même un travail de réflexion pour se dire, bon, d'accord, il va aller voir...
Exactement.
Il va aller voir la vidéo, parce qu'on voit pas cette scène-là. On le voit pas en train de regarder la vidéo, puis on se demande même qu'est-ce qu'il pourrait dire, parce qu'on veut pas qu'il dise quoi que ce soit. Donc, la présence de cette petite caméra de sécurité dans le coin, qui a le petit clignotant rouge, nous permet de croire, en fait, que Hinks va avoir accès à toute la conversation, et donc il va savoir le nom de la personne, et dans quelle clinique elle peut pratiquer, et aussi qu'il y a quelque chose d'important qui s'appelle l'Américain, une personne importante ou un contact important.
Fait que là, pour lui, il veut éliminer les traces, fait que lui aussi, il va aller... C'est pour ça qu'il est après Madeleine.
Exactement, et dans la pure tradition James Bondienne, il va se ramasser là-bas, mais il va aussi se ramasser là-bas en Range Rover. Et donc, il va avoir une vieille version de Range Rover, donc le fameux classique carré, et puis une nouvelle version de Range Rover dans laquelle Hinks va s'asseoir, parce qu'il pourrait pas s'asseoir dans quoi que ce soit, de toute façon.
Puis c'est plus payant pour un acteur d'être vu dans un tout nouveau produit de l'année.
Exactement, exactement. Et puis, je voulais rajouter aussi sur le personnage de Hinks.
Oui.
Encore une fois, dans la tradition, plus que la traduction, vous remarquerez, si vous regardez le film à la maison, il y a un pistolet spécial. Comme la plupart des hommes de main vont avoir une arme spéciale qui leur est attitrée.
Une arme signature.
Et donc, le pistolet de Hinks, c'est un pistolet à double baril, puis qui fait des trous dans le véhicule que Bond va emprunter pour faire la poursuite.
Véhicule de plaisance, j'entends.
Véhicule de plaisance, en effet. On se rappelle qu'on est dans les Alpes. Alors, je pense que tu voulais y venir, mais ça va.
Parlant de poursuite, donc Bond part à la poursuite du cortège de voitures de Range Rover dans lequel Hinks se trouve et dans lequel Madeleine a été amené. Mais Bond, ne faisant pas les choses à moitié, décide de pogner un avion, carrément,
oui,
une espèce de petit bimoteur.
On s'entend qu'il y a un avion, hein? On l'a tous vu? Non, pas du tout. C'est pas du tout dans la tradition des James Bond de dire qu'il y avait un véhicule à telle place.
Ouais.
Comme des fois, tu peux insérer un élément.
Ah, mais
décor,
ça, c'est très drôle. Je vais te contredire là-dessus parce que dans le plan où est-ce qu'on voit de haut la fameuse clinique quand il arrive, puis juste en dessous, on voit un petit tarmac d'atterrissage avec un avion qui est déjà
parfait,
là.
Parfait.
Voilà, je voulais juste démystifier
génial.
Ça.
Génial. Bon, ben, tu vois. C'est
donc,
pour
Bond
ça
a pris cet
deux.
Avion-là et est en poursuite vraiment du cortège de voitures. Il y a un échange de coups de feu. Aussi, il y a une autre mini scène d'action B qui est là, c'est Q qui est toujours également dans la fameuse clinique, s'en va dans un funiculaire, veut simplement rentrer dans son hôtel et est spoté par deux gars qui veulent sa peau. Parce que Bond, pendant la conversation, a donné la fameuse bague qu'il a piquée à Sciarra. Il lui a demandé, peux-tu faire une analyse d'ADN pour voir à qui ça appartient ou quelque chose du genre. Fait que là, sur son laptop, bien sûr, Q a le petit lecteur d'ADN.
Oui, oui.
Et ça va faire en sorte qu'il va découvrir que tout le monde qui a tenu la bague, étrangement, cette bague-là, c'est tous les méchants des autres films.
Tout le monde
qui
a tenu la bague.
Et que, ben, celui qui est au top de la pyramide, en fait, c'est Oberhauser qui est lié à chacun de ces vilains-là que Bond a rencontrés dans les précédents films. Alors là, tout commence à s'interrelier de manière tentaculaire. Ensuite, on revient. En fait, pour finir ça, donc Q réussit à se sauver par la porte de sortie de secours, aussi simple que ça. Il a fui ses poursuivants. Il a semé ses poursuivants. Voilà. Bon, on revient à Bond dans son avion. Et écoute, tu moi, où sur papier, elle est impressionnante. C'est genre, c'est la voiture versus l'avion, mais en pratique, elle est plate, cette séquence-là. Parce que quand tu y penses, c'est juste une ligne droite. Après ça, il se pose, il pète le train d'atterrissage, il pète les ailes, là, c'est juste la carlingue. Là, c'est quand même, ça va toujours droit encore. Puis là, après ça, la carlingue, elle descend une courbe, puis elle s'en va intercepter le cortège. Exactement comme dans Commando avec Schwarzenegger. Moi, je suis Schwarzenegger dans son salon, fait comme, hey, it's like Commando. Hey, they copied me, this son of a bitch. Hey.
Ah, c'est une copie de tellement de films en même temps que je sais plus quoi dire.
C'est ça, elle est sur papier, elle est belle à regarder, c'est juste qu'il se passe rien dans les plates.
Elle est pas engageante. Elle est pas du tout engageante. Il y a pas, on sent pas de challenge, pas en tout. Parce que, bon, Bond est dans son avion, donc il est un petit peu au-dessus de ses affaires, on va dire ça de même, sans mauvais jeu de mots. Puis Hinks va lui tirer dessus avec son espèce de pistolet spécial qui fait de gros trous, par ailleurs, dans la carlingue de l'avion. Mais on le sent pas menacé. C'est Bond, en fait, qui va se mettre dans le trou parce qu'il va décider de descendre dans une rangée d'arbres.
Oui, c'est beau. Bravo, là, champion.
Comme, félicitations, tu vas pouvoir poursuivre longtemps comme ça. La recette est là. Tous les ingrédients de la recette sont là, mais le gâteau lève pas. Parce que finalement, il réussit à les rattraper. Fait que son avion,
c'est ça.
Il réussit à rattraper, il tasse deux Range Rover, puis il réussit à rattraper Hinks dans le Range Rover le plus récent, dans lequel se trouve Madeleine. Non seulement il les rattrape, mais il se plante, en fait. Hinks se plante, il se ramasse sur le capot.
Il passe à travers le pare-brise.
Il passe à travers le pare-brise, d'accord? Et Bond est là. Il s'assure que le chauffeur est décédé. Tu penses pas une seconde de tirer sur Hinks. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est sûr qu'il va se relever, c'est comme rien. Mais bon, c'est un film, là. Mais je trouve que ça manque de...
Le professionnalisme du côté d'un agent, d'un agent.
Ouais, voyons, tu sais bien qu'il va survivre, là.
Bond fait contenance avec Madeleine, lui dit, bon, regarde, t'as pas le choix de me suivre, j'ai besoin de toi pour trouver l'Américain, je vais te protéger, tu vois ce qui arrive quand t'es pas avec moi, donc elle accepte de le suivre. Bond va ramener Madeleine à la chambre de Q, à l'hôtel, et les trois vont se parler un peu des découvertes qu'ils ont fait mutuellement de leur côté. On va écouter ça si vous le souhaitez.
Mais on le souhaite certainement.
Qu'avez-vous pour moi?
Vous ne faisiez pas fausse route. Oberhauser est toujours en vie. Cette chevalière le prouve. Et ils sont tous liés à une organisation. Le chiffre, Quantum, Sciarra, votre ami Monsieur Silva. Et qui fait le lien entre eux?
Lui.
Tout juste, oui.
Cette organisation, vous connaissez son nom?
Non.
Spectre. Elle s'appelle Spectre.
Comment elle peut savoir ça?
Mon père en faisait partie, voilà pourquoi.
M va avoir besoin de vous. Et continue à me tracer.
Entendu. Bond, il faut que vous trouviez l'Américain. Lui seul peut nous mener à Oberhauser.
Ce n'est pas un nom de personne. C'est un nom de lieu.
Peux-tu me dire en quoi Spectre fait référence? C'est quoi l'anagramme?
Mon Dieu, à quoi ça fait référence? Moi, je voyais un fantôme avec un drap, là.
Là, en fait, le spectre, c'est quoi que ça veut dire?
Vas-y.
Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Ou en français, je suis allé nous le chercher. C'est le service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Pas la revanche, la rétorsion.
Mais c'est pas pire quand même, la rétorsion. C'est inusité.
En fait, le terme spectre est de retour dans la franchise de Bond après avoir été séparé depuis 1964.
Droit d'auteur, hein?
Ouais, à cause de droit d'auteur, à cause de la fameuse poursuite contre Kevin McClory avec Ian Fleming, puis Albert Broccoli. C'est une grosse poursuite légale sur les termes à être utilisés. Donc là, bon, la poursuite à la toute fin, bon, les droits légaux du terme spectre, c'est allé à
Kevin McClory. Donc, la franchise Bond ne pouvait pas utiliser le spectre. Finalement, la poursuite judiciaire d'à peu près 40 ans a été réglée et les droits de spectre ont été retournés à la franchise de Bond. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont utilisé. C'est pour ça que peut-être on va voir un personnage qui s'appelle Blofeld un peu plus tard. Je suis pas sûr, je mettrai pas 2 piastres là-dessus, mais on sait jamais. Peut-être que le film peut encore nous surprendre. Madeleine révèle aussi que l'Américain n'est pas une personne ou un homme. C'est un endroit. C'est un hôtel au Maroc, à Tanger, plus précisément. Mm-hmm. Bond et Madeleine s'y rendent. Et Bond va fouiller la chambre et au bout de plusieurs heures, va découvrir une pièce secrète dans laquelle se trouve un paquet de trucs, des tapes de sécurité, des tapes d'entrevue. Même qu'il y en a un, c'est probablement une entrevue, une séance de torture, je sais pas trop, avec qui? Vesper Lind.
Pour faire le lien. Le personnage d'Eva Green.
Et là, Madeleine et Bond fouillent un peu dans la pièce et trouvent des coordonnées du fameux repère du spectre. Les deux vont embarquer dans un train pour se mettre en route, pour se rendre à ce repère-là, pour mener l'enquête un petit peu plus loin. On revient dans le train avec Madeleine et Bond. Alors, va s'en suivre quelques petites scénettes intéressantes. En premier, développement de personnages entre Madeleine et Bond. Bond essaie de lui montrer comment se servir d'une arme. Elle le sait déjà, puisque probablement que son père lui a déjà montré. Il a fallu qu'elle apprenne à se défendre dans sa vie. Ensuite, on a une petite soirée galante entre Bond et Madeleine. Donc, les deux dans leur plus beau costume. Bond avec son merveilleux petit tuxedo de souper blanc avec la petite rose dessus. C'est magnifique. Madeleine qui est aussi vêtue dans ses plus beaux satours. Les deux commencent à parler un petit peu ensemble jusqu'à temps qu'ils se commandent des martinis. Bond regarde un peu sur la réflexion du shaker et bang! Inks arrive. Et là, tu regarderas ce moment. C'est ça, exactement. Tu regarderas comme il faut. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. Mais ce que je trouve amusant, c'est quand Inks donne le coup de pied sur la table pour créer la diversion, tu regarderas la cascadeuse qui double Léa Seydoux, à quel point elle mange la table d'en face de manière hyper violente.
Aïe, aïe. Parce qu'il va pas à moitié, Baptiste.
Non, bang! Puis la fille, j'aurais pas voulu être elle parce qu'elle la mange solide d'en face la table. C'est très drôle. Combat extrême entre Bond et Inks. Et une des rares fois, parce que cette version-là de Bond, tu sais, comme on l'a un peu vu dans, justement, Quantum of Solace ou Casino Royale, Bond est une machine à tuer incroyable au corps à corps.
Ouais.
Tu sais, vraiment à la Jason Bourne, carrément. C'est très inspiré par ça.
Oui.
Et dans ce combat-là, je sens qu'il en a perdu, Bond. Là-dessus, je le sens pas aussi dominateur que dans d'autres combats qu'il y a eu.
Effectivement, ça c'est une belle remarque parce que on a quelqu'un qui est un monstre devant lui, le Bautista.
Ouais, ça explique aussi
ça. Super monstrueux, puis qui fait d'ailleurs certaines de ses prises de prédilection. Là, il fait une prise de l'ours à la gorge qui est assez impressionnante. Il barouette Bond un peu partout, il garoche, il lance, il brasse dans les murs.
Ouais. D'ailleurs, faut pas parler de cette séquence-là à Daniel Craig parce que c'est là où pendant le tournage, il s'est déchiré le ligament du genou.
Oui.
À cause de ça, fait on sent Daniel Craig très amer par rapport au tournage de ce film-là, qu'il a trouvé complètement exténuant, autant mentalement que physiquement. Puis ça aide pas, un ligament déchiré,
non.
c'est vraiment pas ce que tu veux.
Ça doit pas être plaisant d'affronter Batista non plus, encore à corps, même dans un truc qui est chorégraphié, là.
Ouais, c'est quelque chose quand même.
Mais je trouvais que c'était intéressant dans le film parce que Bond n'est pas la machine à tuer qu'il est normalement. Déjà, il est un peu plus vieux, on s'entend, là. Cette itération-là de Bond, là, déjà, dans Skyfall, on le disait qu'il était dépassé.
Pourtant, c'est supposé être un reboot ou est-ce qu'il est supposé être plus jeune? Ben c'est là où j'ai un peu de misère là-dedans.
Ça, c'est un peu particulier.
Avec Skyfall, parce que là, t'es rendu vieux. Ouais, mais je viens de commencer ma carrière il y a 3 ans.
Dans cette nouvelle version de Bond là, déjà elle vient après, on va dire, les versions qui ont floppé de Pierce Brosnan, où Pierce Brosnan était beaucoup plus gentleman, était plus effectivement dans l'esprit, il était très poli, on va dire, comme James Bond. La version Daniel Craig, on fait souvent le rapport avec un bulldog. Déjà, il ressemble un peu à Wayne Rooney avec ses oreilles un peu décollées, sa shape de rugbyman.
C'est ça, il y a une démarche aussi un peu de bodybuilder. Là,
exactement,
c'est très lourd.
Exactement. Fait que plus large, en tout cas, certainement. Même dans les scènes d'action, vraiment, moi, ça m'a fait penser à Jason Bourne, puis au succès que Jason Bourne a eu. Et ils ont répété pratiquement les mêmes scènes à travers, comme saupoudré dans certains films. Il y a une scène de combat au couteau dans Quantum of Solace, si je me trompe pas, qui est presque calquée, mouvement par mouvement, sur un des Jason Bourne. Et puis, c'est plus, on va dire, plus rude, comme tu disais, plus papier sablé, vraiment.
Plus corps à corps, plus intense,
effectivement. Puis, des séquences de corps à corps où on voit qu'est-ce qui se passe. C'est pas le cas dans tous les films, mais c'est très bien fait. Et dans cette scène-là, en fait, on voit très bien le combat. C'est dans un train, donc c'est des quartiers très, très fermés.
Puis là-dessus, ça reprend vraiment la fameuse tradition des combats dans des trains, qui est très connue dans tous les films de Bond, c'est ça?
Oui, puis il y a un clin d'œil aussi à l'Orient Express. Semble-t-il que ce train-là s'appelle le Désert Orient Express.
Ah oui?
Ouais. Et donc, ce combat-là, je trouvais ça intéressant que Bond se fasse ramasser par quelqu'un qui est nettement plus gros que lui. Oui,
parce que si c'était pas l'intervention, une ou deux interventions de Madeleine, Bond passait.
Parce que ça ouvre cette porte-là. Ça ouvre la porte du personnage de Madeleine, une Bond girl, qui est jouée par Léa Seydoux de façon extraordinaire.
Ta petite préférée.
Ah oui, oui, oui. Et qui intervient. Et on a appris, effectivement, tu l'as bien dit, que ce personnage-là, en fait, dans sa jeunesse, a dû utiliser un Beretta que son père cachait derrière l'eau de Javel dans la salle de bain pour le sauver. Elle a sauvé son père. Et là, elle va sauver Bond d'un coup de feu. C'est sûr qu'elle se fait ramasser après. Parce que Bautista, c'est pas un coup de feu qui va l'arrêter, surtout pas un coup de feu sur le bras gauche.
Ouais. Ça donne le temps à Bond de réagir, c'est-à-dire d'utiliser le plan d'y enrouler une corde autour du cou à Inks, mais relier cette corde-là justement à des barils de bière, n'importe quoi.
Probablement dans Heineken, en fait.
C'est ça, sûrement qu'ils sont en train de sortir un à un de la porte qui est ouverte, puis par la suite, ce qui se passe, c'est à cause du contrepoids, Inks est extirpé du wagon et la bagarre est terminée. Ça donne un petit moment de répit où est-ce que les deux, Madeleine et Bond, vont tout simplement faire la chose la plus logique après un moment si intense.
Oui.
Aller dans la cabine et
fouiller!
Mais là, t'as pas parlé du seul mot que Hinks dit dans le film.
Shit! Selon toi, penses-tu que Hinks, on pourrait le revoir? Parce que je pense que c'est quelque chose qui tue pas.
Ça tuerait pas Bautista, certainement.
C'est
pas.
Ça. Fait que moi, je pense que d'après moi, il a survécu, lui. Puis peut-être qu'on pourrait le revoir un jour. On sait pas trop.
Ça pourrait être intéressant. On sait que Dave Bautista, en fait, est un grand fan de la série James Bond. Puis que pour lui, c'était un rêve devenu réalité que de participer à un James Bond. Je crois que c'est une possibilité. C'est peu probable à mon sens, parce que dans la tradition des hommes de main, il y a quand même Jazz en fait
qui revient,
qui a une belle histoire d'amour d'ailleurs, moi qui me touche particulièrement. Qu'est-ce que j'adore ça, c'est dans Moonraker, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est extraordinaire ce film là.
Mais je suis d'accord avec toi, d'habitude c'est plus des one shot que d'autres choses, parce qu'il y a pas vraiment.
Mais
qui
c'est intéressant, moi je trouve que ce que t'apportes c'est intéressant, il pourrait survivre à ça.
Peut-être, on va peut-être le voir dans un univers alternatif ou dans l'autre, on sait jamais.
Oui.
Le lendemain matin, le train dépose Bond et Madeleine à une gare complètement isolée. Et c'est là, tu sais, on parlait que la chaîne elle débarque. Là, pour moi, c'est à partir de là que la chaîne débarque et qu'on sent la réécriture du scénario. On sent que plusieurs personnes ont touché à ce dernier moment du scénario pour faire en sorte que le scénario soit prêt à temps, qu'il soit tourné à temps et sorti à temps pour la date qui a été prévue de sortie, bien avant que le scénario soit commencé à être écrit. Madeleine et Bond attendent quelque chose. Je sais pas quoi. Penses-tu qu'en fait, c'est ça, regarde. Ma théorie, c'est que parce qu'ils attendent quelque chose à cette gare-là et finalement, au bout de quelques heures d'attente, ils voient une voiture qui vient les chercher et les emmener au repère du Spectre. La seule affaire, c'est est-ce qu'ils ont pris un guess, tout simplement en disant « Ok, Spectre nous surveille, on va descendre à cet endroit-là, ça va leur donner plus à l'oreille comme quoi on est en route pour aller les rencontrer, est-ce qu'ils vont envoyer une voiture? » Parce que d'après moi, c'est juste un wild guess, ça. On voit pas qu'ils ont pris contact avec Spectre pour arranger un meeting pour se faire amener.
Exact. Non, t'as tout à fait raison. C'est à partir de ce moment-là. Puis c'est d'ailleurs ce désert-là, cette espèce de gare perdue. Déjà, la gare perdue, on s'entend. Eux autres étaient perdus même quand ils ont écrit cette scène-là. Mais ils attendent. Puis comment ça, ils attendent? Comment ça se fait?
C'est ça. Quel est leur but? Parce qu'imagine si la voiture serait jamais passée pour les prendre. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça. C'est là où est-ce que je trouve... Bon, ma théorie que je me suis fait, que je viens de t'expliquer, c'est ça qui, dans ma tête, motive le fait que le Spectre sait qu'ils sont en route et qu'il envoie une voiture pour les amener dans leur installation.
Mais à ce moment-là, il faut laisser un indice au téléspectateur.
Oui,
ce qui n'est pas fait du tout. Un peu comme avec Bautista, au moins il y avait l'indice de voir de M. Inks, en fait, qui découvre la dépouille de White, puis qui part à la recherche de Madeleine.
Okay.
Au moins il y avait cet indice-là. Okay,
si tu veux, regarde, je peux enculer des mouches aussi. Regarde, tu sais, Inks débarque dans le train, ok?
Oui.
C'est quoi son but encore? Est-ce que c'est de tuer Bond? Est-ce que c'est encore d'appréhender Madeleine? Mais si le Spectre veut avoir Bond et Madeleine dans leur quartier général, pourquoi est-ce qu'il envoie Inks?
Exact. Puis s'il veut les tuer, pourquoi est-ce qu'il fait juste pas leur tirer dessus? Il arrive par en arrière, ils savent pas qu'il est là.
Ou à moins que, finalement, le but de Inks, c'était pas de les tuer, c'était juste d'ouvrir la porte du train, les sacrer à l'extérieur, puis après ça, il y avait une voiture qui les attendait.
Oh, mais c'est pas trop, ça sert à rien! C'est ça. Là, tu fais comme, mais cette scène-là, à quoi elle sert? Elle est super plaisante, mais pourquoi elle est là? Le gars, il a un pistolet spécial, là. C'est-à-dire, d'un coup, il aurait pu ouvrir la porte de, tu sais, je veux dire, ouvrir le côté du train, là.
Oui.
Là, avec les trous que ça faisait dans l'avion, là, honnêtement, là, tu sais, c'est des trous, là, je vous le dis, là, c'est à peu près 4 pouces de large.
C'est presque aussi bon que la machine gun sur la navette Independence.
T'as l'impression que c'est un 12 à une main. Mais c'est quoi, c'est...
Elle était en retardement, c'est drôle, okay, tu l'as compris 5 secondes après, là.
Exactement. On va vous montrer comment c'est fait chez nous.
Et voilà, mais anyway, c'est des questions qui restent entières quand même, oui, mais là, on est rendu à enculer des mouches solides, mais ça, les questions se posent quand même. Donc, une voiture vient récupérer Madeleine et Bond.
Une Rolls-Royce 47.
Exactement, les amène à l'intérieur du complexe du Spectre, qui est situé et bâti en plein milieu d'un cratère où un astéroïde est tombé, encore une fois, Armageddon. Genre, ça, on est vraiment liés à ce film-là, mais toi,
oui,
et
ça,
moi, jusqu'à la fin des jours.
Il y a quelque chose avec les météorites, en fait.
Bond et Madeleine, les deux sont amenés à leur chambre, où est-ce que là, ils commencent à avoir... On sent... qu'il y a une certaine théâtralité derrière cette organisation-là, le Spectre, pour jouer dans la tête de Bond et de Madeleine. T'sais, on voit dans la chambre de Bond, il y a une fameuse photo qui est reconstituée, où est-ce qu'on voit Bond enfant avec un jeune Franz Oberhauser et le père d'Oberhauser. On voit aussi dans la chambre de Madeleine un cadre avec une photo de la jeune Madeleine et son père quand
Moi,
il est petit.
Moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Concernant la photo de Oberhauser avec James Bond jeune, le personnage qui joue le père, on le voit très brièvement. Là, on le voit, puis même c'est une photo qui est relativement floue, parce qu'elle a de l'âge. Moi, j'ai cru reconnaître, j'ai pas trouvé de confirmation nulle part, mais John Turturro.
Ah oui?
Oui, celui qui fait un peu le comic relief dans les Transformers.
You don't mess with the Jesus. Ouais, en fait, un régulier des frères Cohen. Oui, okay.
Ouais, ben voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il me semblait reconnaître son visage. Si tu veux, on jettera un coup d'œil.
On jettera un œil. À la maison aussi, on vous invite à voir si vous voyez John Turturro aussi.
Si vous pouvez confirmer quelque part une source, allez-y, là, dites-le nous. Ça me ferait plaisir de voir ça.
Après cet accueil très hospitalier de la part du Spectre, en fait, les deux sont amenés à la rencontre de Franz Oberhauser, qui est faite de manière très théâtrale, dans une espèce d'auditorium dans lequel il y a tout est sombre, dans lequel il y a un météore dans le milieu, où est-ce qu'il se met à se retrouver.
T'as vu la taille de ce météorite?
Oui.
Pour vous donner une idée, le cratère dans lequel se trouve cette espèce d'organisation-là, avec des panneaux solaires, tout ça, là, c'est minuscule, d'accord? Puis la grosseur de ce météorite-là, ça aurait fait un trou, là, mais genre de la taille de... la taille, genre, du lac supérieur, là. C'est ridicule.
Là, les présentations sont faites. Les Oberhauser et Bond sont face à face et on découvre, ben, ultimement, qu'ils sont reliés, que c'était des demi-frères. Parce que après le décès des parents de Bond dans un accident d'alpinisme, ben, Bond a été, ouais, je sais, je trouve ça stupide en l'expliquant, je trouve ça extrêmement con, mais le père d'Oberhauser a pris Bond sous son aile ils ont essayé de former une famille pour la plus grande jalousie du petit frère. Voilà, on va y venir plus tard, mais c'est là, tu sais, la chaîne débarque, là, c'est ça. Pourquoi en faire des frères? C'est ça l'idée.
Ah, c'est une facilité, mais c'est déconcertant, en fait.
Ensuite, Oberhauser va commencer à donner une petite visite guidée à l'intérieur du complexe du Spectre. Il va commencer à expliquer son plan machiavélique, qui, ultimement, n'est pas la domination du monde, mais presque. On va écouter ce que ça donne.
Tu tues des innocents en mettant des villes à feu et à sang? Histoire de convaincre les pays de rejoindre un réseau de renseignements payé par toi. Ça n'a rien de compliqué. J'imagine que notre cher ami C est de tes disciples.
On peut dire ça.
Il obtient quoi en échange?
Rien du tout. C'est un visionnaire, tout comme moi.
Des visionnaires, c'est ça. Les asiles de fous en sont remplis.
Et toi, tu ne voyais pas ce que tu avais sous les yeux? 1000 fois tu as croisé ma route et pas une fois tu ne m'as vu. Le chiffre, Green, Silva.
Tous tués.
Oui, c'est vrai. Un certain mécanisme s'est mis en place. Tu te mêlais de mon univers et je détruisais le tien. Coïncidence, croyais-tu que toutes les femmes de ta vie finissent par mourir? Vesper Lynn, par exemple. Oui, elle, ça a été son grand amour. Il t'en a parlé de Vesper Lynn. Et ensuite, bien sûr, ta très chère M. Partie à jamais. Moi. Tout ça, c'était moi, James. Ça a toujours été moi. Je suis l'auteur de tous tes malheurs.
J'ai beaucoup de misère avec ça. Je trouve que là, les scénaristes, peu importe qui a écrit cette scène-là, c'est royalement gouré parce que c'était pas nécessaire de faire en sorte que Bowser puis Bond soient des frères, ok?
Vraiment
deuxièmement,
pas.
C'était pas nécessaire aussi, bon, de faire en sorte que on prétend qu'Bowser, c'était lui qui a tiré les ficelles, qui a comme, genre, engagé Silva, le Chief, Dominic Green, tout le monde, genre, qui était derrière aussi la mort de Vesper Lynch, parce que c'est bien beau le dire, mais il faut que tu le montres aussi. Il faut... Je sens pas son emprise assez forte et assez puissante pour avoir comme manigancé tous ces plans-là. Il y a rien de personnel. Je trouve ça poche.
On s'entend que Silva, c'est un ex-double zéro. La motivation qu'il y avait dans Skyfall, elle était toute personnelle, puis elle était... C'était une rage qui était dirigée vers M.
Pas vers Bond.
Exactement, qui était pas vers Bond du tout, même qu'il voulait essayer de recruter Bond de son côté.
Ah,
puis là, tu viens ramener un personnage qui, semble-t-il, aurait relâché Sylvain pour essayer de créer ce chaos-là. J'étais partout pour tuer M. Ouais, on était pas là pendant...
Non, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement tiré par les cheveux et que c'est un très mauvais choix.
Et je suis l'auteur de tous tes malheurs.
Mais c'est pas grave, il nous reste 30 minutes de film à faire et on va continuer, on ne laisse pas. Donc, ce qui s'est passé après cette fameuse révélation que Bowser est derrière absolument tout ce qui a fait souffrir Bond et qui est vraiment le catalyseur de tous les événements qu'on a vus dans les trois précédents films, ben, Bond se fait assommer ensuite, se réveille sur une chaise de torture. Encore une fois,
ça ressemble pas à un...
t'as une impression de déjà vu, toi aussi, hein?
C'est
ça, un ressuscé encore incroyable de la séquence de la torture de la chaise et de la corde dans Casino Royale. Encore une fois, en fait, je vais prendre un petit peu d'avance sur la fameuse section. Vas-y. Savais-tu, Gab? C'est que au départ, dans la première version de John Logan, cette scène-là de torture avec une perceuse dans la tête, c'était pas ça. C'était remplacé par une partie de carte de Texas Hold'em entre Oberhauser et Bond. Donc, Oberhauser disait si je gagne la partie, vous mourrez tous les deux, toi et Madeleine, et si toi, Bond, tu gagnes la partie, Madeleine survit. Puis,
mais c'est juste que c'était la même chose.
C'est ça, ça revient pas mal au même. Donc là, on est gracié d'une séquence de torture où est-ce que Bond est attaché solidement sur une chaise et Bowser est aux commandes d'une petite machine avec des drills, en fait des perceuses, et ben il va s'amuser à percer des trous dans la tête de Bond tout en discutant un petit peu avec Madeleine et en lui expliquant le background que les deux ont, c'est-à-dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand les parents de Bond sont morts, le père d'Oberhauser a recueilli Bond sous son aile et a dit à son fils Franz de considérer Bond comme son frère, et il y a eu de la jalousie qui s'est passée, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Bond Oberhauser a tué son père à cause de ça. Encore une fois, un bon vieux... un bon vieux parricide, encore une fois,
un parricide comme on en a rarement vu au cinéma.
Ouais, c'est ça, encore une fois, je trouve ça très peu...
L'essentiel de cette scène-là, t'as pas le choix de constater les nombreux clichés. Puis tu peux dire, d'accord, peut-être qu'ils le prennent au second degré, tu sais, je veux dire, il y a un chat blanc.
Ah ben ça donne chat blanc, ça donne un petit hint vers ce que beaucoup de cinéphiles et d'amateurs pensaient au départ, parce qu'ils nous ont fait un petit peu de côté publicité quand Christoph Waltz a été ajouté à la distribution du film. Tout le monde disait, ah, il joue Oberhauser, mais dans la tête de bien des gens, ça marchait pas, cette explication-là. Ils nous ont fait un petit peu comme, tu sais, dans Star Trek Into Darkness, quand on disait Benedict Cumberbatch, c'est pas Khan du
pas
tout.
Khan.
Et ben, ils nous ont fait exactement la même chose avec Oberhauser, mais on est capable de mettre deux et deux ensemble. Le film s'appelle Spectre. Qui est le vilain lié à Spectre? Eh bien, c'est notre ami Blofeld.
Et voilà,
Ernst Travo Blofeld. D'ailleurs, tu remarqueras aussi, à toutes les fois où on voit Blofeld dans les scènes où est-ce qu'on est dans son complexe, il porte jamais de bas. Il porte ses loafers, mais il porte pas de bas.
Intéressant.
C'est très amusant. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça dit sur le personnage, mais il est très relax et il porte pas de bas. Avant la fameuse torture finale, où est-ce que Oberhauser dit que si je perce avec ma perceuse à un endroit très précis à la base du crâne puis du cou, je vais faire en sorte que tu vas tout oublier puis que tu vas être un légume. Il s'exécute, mais juste avant, il va faire notre fameuse révélation sur sa vraie identité qu'on va écouter immédiatement.
Franz Oberhauser est mort il y a 20 ans, James, dans une avalanche aux côtés de son père. L'homme à qui tu parles en ce moment, celui qui est à l'intérieur de ton crâne, c'est Ernst Stavro Blofeld.
Accrocheur comme nom.
Il me vient de ma lignée maternelle.
Ernst Stavro Blofeld, c'est la vraie identité
Oh mon Dieu!
Oberhauser. Enfin, ce personnage dont la série James Bond a récupéré les droits, eh bien, il est de retour. Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour moi et toi, ça fait du sens. On est content de revoir ce méchant iconique joué par quelques acteurs. Mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, l'impact de cette annonce-là n'a pas vraiment grand-chose à y voir. Pas vraiment comme d'impact ou quelque chose de genre.
Effectivement, puis je me mets dans le fond, dans la peau de quelqu'un à qui ça sonnerait aucune cloche, puis je me dis, bon, est-ce que la scène perd de sa puissance? Certainement. On pourrait voir ça comme du fan service. Moi, je trouve que c'est efficace pour la suite des James Bond, c'est-à-dire que dans la logique du 1-3-5, des impairs qui sont bons pour Daniel Craig, ce serait très intéressant de voir un Blofeld.
Oui. On va y revenir, mais j'ai un petit questionnaire pour toi tantôt par rapport à la suite des choses pour Blofeld. Pendant la torture, Bond ne se le sent pas défaire, est en train de jouer après sa montre que Q lui a donné un petit peu plus tôt dans le film, et ben Q a supposé que, en fait, a laissé savoir qu'il y avait une charge explosive à l'intérieur de la montre. Alors juste avant, Bond réussit à prendre possession de sa montre, et Blofeld va tout simplement percer le trou dans l'endroit qui est supposé faire tout oublier à Bond. Madeleine va voir Bond pour voir s'il est encore vivant, si effectivement a perdu la mémoire. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Bond se souvient parfaitement d'elle. Il va lui donner la montre qui est réglée sur une minute. Elle va lancer la montre en direction de Blofeld et bang, tout va exploser. Ça va donner la chance à Bond de magiquement se défaire de ses liens.
Parce qu'effectivement, la chaise était probablement reliée de manière électronique à un capteur quelconque et là, elle se détache.
Exactement. Blofeld est laissé pour mort à l'intérieur. Et là, en fait, ça, c'est pas de moi, ce gag-là. Là, il vient du vidéo Everything Wrong About Spectre, mais Bond, dans le fond, prend une mitraillette et sort du complexe pour s'en sauver, et chacun des méchants qui va voir, qui essaie, des hommes de main de Blofeld qui essaie genre d'empêcher Bond de sauver, il va tous les tuer super facilement d'un coup. Fait que ça fait penser comme genre au jeu GoldenEye 64 au niveau agent, parce que genre t'étais juste capable de tuer tout le monde avec un coup, là, c'était très très drôle.
Ah, puis ils sont tous à découvert, hein?
Mais aussi, l'affaire, c'est que cette scène-là a été ultra simplifié parce que c'était la première journée où est-ce que Daniel Craig revenait de son opération pour faire réparer son ligament au genou. Alors c'est pour ça que ça a été simplifié. Il a dû dire, regarde, je prends ce gun-là, je tire tout le monde, puis je le fais en marchant, aussi simple que ça. Alors ben ça a marché. Puis là, à la toute fin, ils réussissent, Madeleine et Bond réussissent à arriver à un héliport où est-ce qu'il y a un hélicoptère, voilà. Il les attend. Et juste avant qu'ils montent dans l'hélicoptère, hyper maigre grosse explosion du complexe au complet. Ouais. Et ce qui est amusant, c'est que cette explosion-là détient un record Guinness, c'est-à-dire la plus grosse explosion de lieu comme jamais enregistrée jusqu'à maintenant. Ouais. Et tout a été fait en une seule prise. Il fallait absolument pas que ça foire au moment du tournage, sinon ça aurait pas été très très
il
n'y aurait pas eu de record, mettons. Alors les deux s'en vont dans l'hélicoptère et retournent à Londres. Là, on rentre vraiment dans le dernier stretch du film, ouais. Où est-ce que Bond, Moneypenny, Tanner, un des agents qu'on a appris à connaître depuis Quantum of Solace,
ouais, qui est l'assistant de M.
Exactement, ainsi que Madeleine se rencontrent dans une cache qui s'appelle le Hildebrand Rarity, qui est un des titres qui a pas été utilisé encore d'un roman d'Ian Fleming.
Voilà.
Et bon, c'est une course contre la montre, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils sont à quelques minutes de la mise en opération de ce fameux Nine Isle-là, qui, se rend compte, a été supervisé, conçu, payé par Blofeld lui-même et par le Spec, qui va leur permettre d'avoir un contrôle sur toute l'information. Ils ne peuvent pas laisser faire ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que Madeleine refuse de suivre cette gang-là, que j'ai baptisée la gang à Scooby-Doo. C'est très, très amusant. Ils s'en vont investiguer le mystère. Donc, elle refuse parce qu'elle veut... les événements, c'est trop pour elle. Elle veut se soustraire de ça et repartir dans une vie normale.
C'est ça.
Tout le reste de la Scooby gang s'en vont. On pense que tout est correct, qu'ils vont réussir à s'en sortir. Et finalement, bang, des hommes de Blofeld débarquent. Le Spectre n'a pas dit son dernier mot.
Ah non.
Ils vont kidnapper Bond, le mettre dans un fourgon,
ouais,
et l'amener à quelque part de très familier. Pendant ce temps-là, le reste de la gang, M, Moneypenny, Tanner et Q, font ce qu'ils peuvent pour aller dans l'espèce de gros building qui a été construit, qui est supposé être le gros siège social de ce Nine Isle-là, et essayer d'aller confronter C pour l'empêcher de faire en sorte que ce système-là soit opérationnel dans quelques minutes. Pendant ce temps-là, Bond se fait amener dans le fourgon aux à l'ancien quartier général du MI6, des services secrets britannique, celui qui a explosé deux fois plutôt qu'une, dans Skyfall, ainsi que dans The World Is Not Enough aussi. Ce qui va se passer, c'est que bon, Bond réussit à se défaire de ses captifs, rentre à l'intérieur du building.
Facilement, d'ailleurs.
Ah ouais, c'est extrêmement facile. Et là, c'est là que, tu sais, je parlais de la théâtralité de Blofeld et du spectre. Ben là, elle est complètement exacerbée parce que là, il rentre dans les anciens locaux. Il commence à avoir des trucs pour commencer un petit peu comme une maison hantée dans un carnaval, quelque chose du genre. Plus il avance dans les pièces, plus il voit des éléments qui lui rappellent ses missions passées. On va voir des photos un peu partout dans les décombres de Vesperlin, de M, de Silva, du chiffre, encore une fois, juste pour rappeler vraiment tous les morts, toutes les personnes qui n'ont pas survécu à cause de Bond. Aussi, il faut rappeler que ce building-là est prêt pour une démolition aussi probablement dans quelques jours, sauf qu'on se rend compte que le spectre a probablement pris contrôle des explosifs du building.
Pour rejoindre ta théâtralité, t'as l'impression aussi qu'il a créé comme une sorte de toile d'araignée, en
fait,
avec tous les câbles pour faire exploser le bâtiment pour la démolition.
T'as parfaitement raison. Alors, Bond monte à l'étage supérieur et il y a un face-à-face avec Blofeld, encore une fois, qui a survécu à l'explosion et qui commence à arborer pas mal le look pour lequel on le connaît. C'est-à-dire, Blofeld, pour ceux qui ont vu On ne vit que deux fois, ben Blofeld a une cicatrice carrément sur l'œil. Et ben c'est ce qui se passe. Surtout, ce que j'ai aimé dans cette version-là de Blofeld, c'est qu'il y a aussi il y a un œil vitreux.
Oui, absolument. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est bien réussi, là. Honnêtement, ils ont réussi à... Ben, encore une fois, dans la même veine de Ian Fleming avec ses personnages, ses antagonistes qui ont des difficultés physiques.
Des handicaps physiques ou des particularités physiques.
Exactement. Comme ça, cette cicatrice-là, elle est caractéristique.
Il y a une petite discussion entre les deux parce que les deux sont bloqués par une espèce de vitre pare-balles. Oui. Et Blofeld apprend à Bond qu'il a kidnappé Madeleine, qu'elle est quelque part dans l'immeuble du M6, qu'il doit la retrouver parce qu'il reste 3 minutes avant que l'explosion du building se fasse.
Un épisode de Fort Boyard, honnêtement.
Exact. La boule, coup de gong! Blofeld se sauve dans un hélicoptère et sac le camp du building qui va bientôt exploser. Bond, lui, part à la recherche de Madeleine un peu partout et vraiment monte en haut, en bas dans les décombres pour voir où elle est. Pendant ce temps-là, on a la Scooby Gang et du côté des 9 Sentinelles du Nine Eyes. Et il y a confrontation entre C et M pendant que Q est en train de vraiment pirater le système pour faire en sorte que la mise en opération du service ne se fasse pas. Ouais. Alors, il y a une dernière confrontation entre M et C, une espèce
de l'alphabet.
Exactement, petite joute oratoire, carrément. Et il va y avoir affrontement physique entre les deux. Et C va tomber du plus haut étage de son building pour s'écraser sur le sol et mourir d'une mort horrible, horrible.
Ah, d'une mort facile aussi. On tombe dans la facilité.
Et Q a réussi à désactiver la mise en opération du système. Alors, la vieille garde gagne et l'ancien a triomphé du nouveau. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rue, Bond est encore en train de chercher Madeleine. Il reste une minute, tout est perdu.
Et Blofeld reste quand même en hélicoptère au-dessus du building pour voir qu'est-ce qui se passe.
Pour voir enfin la fin de son demi-frère. Jusqu'au moment où est-ce que Madeleine décide de lâcher un cri, encore une fois, facilité de scénario. Et Bond la trouve dans un placard complètement enchaîné avec des explosifs. Alors, la sort de là. Ensuite, le building explose, mais les deux réussissent à s'en sortir in extremis grâce à un bateau qui était accosté justement à l'espèce de petit port, qu'il y a vraiment à la base du building. Oui. Donc, les deux réussissent à s'en sortir. Donc, Bond et Madeleine poursuivent justement l'hélicoptère qui contient Blofeld. Et c'est là où est-ce que ce bout-là me met en crack dans le film. C'est que pour être capable d'appréhender, de faire crasher l'hélicoptère où est-ce que Blofeld se trouve, ben Bond a 3 balles dans son fusil. Ouais. Il va tirer sur le moteur et bang, ça va faire en sorte que le moteur de l'hélicoptère va exploser et ça va causer l'écrasement de l'hélicoptère. Je trouve ça paresseux, comme ça se peut pas.
Puis on s'entend que l'hélicoptère, il va en ligne droite au-dessus de la Tamise.
Tu sais, je comprends bien que Bond, c'est un excellent visu, mettons, quand il est question de tirer sur quelque chose, mais qu'une balle réussisse comme à endommager de même un moteur d'hélicoptère, là, je trouve ça simple, je trouve ça rushé comme élément de scénarisation. Alors, ça me met en maudit. Quand on parlait que, tu sais, la chaîne débarque, là, ben, solide, là, encore une fois.
T'as l'impression qu'il n'y a pas eu de proofreading, en fait. T'as l'impression qu'il n'y a personne qui est passé derrière pour leur dire, non, mais ça n'a pas de bon sens.
Ça a été fait à la va-vite, encore une fois, pour respecter la date de sortie, les dates de tournage.
Ils se sont pas remis en question, puis ça, c'est une grande faille, quand même.
Fait qu'on probablement comme fait, fuck it, puis let's go. Ça prend juste un prétexte pour que, genre, l'hélicoptère crash, ben, c'est ça. Fait que je le trouve paresseux. Comment dire, c'est sous les standards que nous avait habitués cette série-là. Du moins, cette itération Daniel Craig là, c'est vraiment sous les standards, c'est très paresseux. Alors, ce qui va se passer pour finir en beauté, donc l'hélicoptère s'écrase sur le pont de la Tamise. Blofeld est le seul qui a survécu, a une jambe cassée. D'ailleurs, il porte ses bas étrangement dans cette scène-là. Essaie de se sauver en rampant. Bond arrive, pointe son fusil devant lui. Blofeld lui dit « Ok, vas-y, tire, finis le travail. » Pour faire sûr que les deux se rencontrent encore une fois dans quelques autres films, ben Bond laisse tomber son chargeur en disant « J'ai plus de balles. » Puis là, part avec Madeleine.
Cette scène-là, elle est intéressante quand on sait ce qui est le point de discorde, en fait, entre C et M.
Ben, vas-y.
M, étant de l'ancienne garde, croit que ça prend des agents humains sur le terrain pour savoir quand tirer et surtout quand ne pas tirer.
Un permis de ne pas tuer.
Dans le fond, C se veut le défenseur de la nouvelle façon de mener les assassinats dans le monde, à savoir avec des drones. L'utilisation de drones est largement plus simple. Elle est plus sécuritaire parce qu'elle n'implique pas des humains. M n'est pas d'accord avec cette façon-là de faire. Donc, c'est pour ça qu'il veut défendre les double zéro, les agents double zéro. Donc, c'est vraiment l'informatique versus les humains. Quand arrive cette scène-là sur le pont, il y a M qui regarde la scène d'un côté. De l'autre côté, il y a Madeleine qui regarde la même scène, c'est-à-dire l'affrontement entre James Bond et Blofeld, où James Bond a un petit Beretta, en fait, je pense que c'est un Walter PPK.
C'est un Walker PPK.
Ouais, c'est ça, son PPK, en fait, qui pointe sur Blofeld, et il décide de pas tirer, parce qu'il regarde de chaque côté, et il se dit, non, en fait, on peut l'arrêter, M est là, il y a l'escouade tactique qui est sur le pont. Donc, c'est ça qui est intéressant de cette scène-là, c'est sachant qu'un humain peut prendre la décision de ne pas tirer, il le fait, et à ce moment-là, on a comme, c'est la victoire de l'ancienne garde finalement, mais la victoire de l'ancienne garde fait qu'on va pouvoir peut-être revoir Blofeld un de ces jours.
Oui, on va y venir après, mais j'en douterais pas la version Christophe Voice.
Probablement pas, effectivement.
Voilà, le problème est réglé, l'antagoniste a été battu et on passe à notre dénouement final. Donc, on pense que Bond est parti avec Madeleine pour de bon, a disparu dans la brume. Q est dans son laboratoire en train de gosser sur je ne sais quoi et Bond arrive et demande une dernière faveur à notre ami Q. Et cette dernière faveur-là, eh bien, c'était de lui donner la fameuse Aston Martin DB5 qui avait été utilisée et détruite dans Skyfall, voilà. Sur laquelle Q était en train de travailler pour la remettre en état. Et Bond n'est pas tout seul dans cette voiture-là.
Mais non, surprise!
Il est accompagné par Madeleine et les deux partent, on ne sait pas où, et le film se termine.
Et les deux Bond Girls sont encore vivantes, quand même.
C'est faut le faire, ça, quand même.
Oui.
Toi, qu'est-ce que tu ferais avec Blofeld? Parce que là, encore une fois, il n'y a pas juste Daniel Craig qui a détesté le tournage de Spec, il y a aussi Christophe Waltz qui a été complètement amer avec son expérience, avec le résultat final, et il a dit non, moi, je ne reviens pas. Alors, maintenant que tu as établi le personnage de Blofeld, que tu as les droits, puis que tu pourrais faire pas mal ce que tu veux avec. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que pour le prochain film, tu utilises Blofeld en recastant quelqu'un d'autre ou tu prends un autre méchant?
Pour le prochain, je prends pas Blofeld parce que c'est trop frais. L'échec est trop frais à la mémoire, à mon avis. Mais il y aurait une présence de Blofeld dans ce film-là. C'est-à-dire soit en prison ou soit parce qu'on est quand même dans les contraintes d'une démocratie puis d'un système judiciaire. Même si c'est de l'espionnage, il y a des contraintes judiciaires qui font que ce personnage-là ne sera pas tué. Il n'y a pas de peine de mort au Royaume-Uni. Elle a été abolie depuis un certain temps. Ce qui fait que peut-être que ce personnage-là va être pris par la Cour pénale internationale ou qu'il va être mis dans une espèce de système de contingence comme on en voit souvent dans les films d'espionnage comme James Bond, mais ceux qui sont parodiés par Austin Powers.
C'est ça. Blofeld aussi, tant qu'à y être, pourquoi pas essayer de t'en servir comme outil aussi, peut-être qu'à un moment donné, un peu comme ça s'est fait dans l'émission Impossible ou quelque chose de genre, devant un nouvel ennemi, t'as plus de ressources pour le combattre, alors tu tournes vers un ancien ennemi pour te donner des hints pour battre ce nouveau-là. Tu sais, un peu à la Hannibal Lecter, comme fait le FBI et Clarisse. Je sais pas, ça pourrait être une avenue.
Ben, c'est une avenue. J'avoue que moi, je préférais voir Blofeld emprisonné, puis peut-être mettre les petits indices qui vont permettre de le libérer éventuellement.
Sinon, vu que Christophe Waltz revient pas, c'est qui tu prends comme acteur?
Excellente
question. Moi, j'ai Kenneth Branagh en tête.
Ah ouais?
Il ressemble un peu à Christophe Waltz, c'est un très bon acteur aussi, puis ça pourrait faire la job, honnêtement.
Moi, c'est drôle, j'aurais pensé à Colin Firth.
Ah, aussi, peut-être.
Oui, mais parce que un peu dans la même veine de Kenneth Branagh, il y a, je sais pas, le menton, c'est sûr qu'il est peut-être plus expressif que Christophe Waltz. Christophe Waltz avait un personnage très statique, en fait, il le jouait comme ça. Ça prend un excellent acteur, en fait.
La question reste entière, mais on va voir un peu ça va être quoi le fameux concept sur lequel Danny Boyle et son scénariste travaillent pour revigorer la formule. Avant de finir, un peu comme on a commencé dans notre épisode sur Armageddon, j'ai envie de te laisser avec la petite section qui s'appelle « Savais-tu, Gab? » qui va nous donner, ben, en fait, à toi et à nos auditeurs, des petites informations de coulisses par rapport à Spectre et ce que ça aurait pu être. Mais moi, je te parlais que j'ai été chercher ces fameux courriels qui ont fui de chez oui. Sony et tout ça. Donc là, moi, je suis allé retrouver un petit peu un condensé de ce qu'il y avait dans la première version du scénario de John Logan, parce que c'était un film complètement différent que le résultat final qu'on a vu. Alors, j'ai envie de te donner un petit peu un aperçu que dans un univers alternatif, de quoi avaient l'air certains des éléments de Spectre au départ.
Vas-y, j'ai tellement hâte, honnêtement, là.
Savais-tu, Gab, que dans la séquence d'ouverture dans la version de John Logan, ça se passe à Amsterdam et l'action implique Bond, Moneypenny et Q qui tentent d'appréhender un homme nommé Valenti, l'équivalent de Sciara dans la version qu'on connaît. Et comme couverture, Bond se fait passer pour un combattant en cage que veut affronter Valenti. Pendant le combat, Q se rapproche de Valenti en jouant le rôle de son soigneur. Le tout culmine par une poursuite en bateau spectaculaire dans laquelle Bond doit simuler sa propre mort, encore, pour s'échapper. Bond retrouve Valenti plus tard pendant un bal masqué à Rome. Le scénario introduit l'idée d'une taupe travaillant pour le Spectre à l'intérieur des services secrets anglais. Cet élément crée un climat de paranoïa qui se développe entre les personnages pendant tout le film, spécialement entre Moneypenny et Tanner qui sont pas capables de bien s'entendre du tout pendant cette version-là du scénario. Savais-tu, Gab?
Je savais pas de ça.
Savais-tu, Gab, que il y a aucune mention de Franz Oberhauser dans la version de John Logan. La version originale du scénario présente le personnage de Blofeld comme étant un seigneur de guerre africain qui a juré vengeance contre l'Angleterre et les atrocités faites par le colonialisme britannique. Il est plus tard révélé que son vrai nom est Joseph Kiembu. D'ailleurs, l'acteur Chiwetel Ejiofor, qu'on a pu voir dans 12 Years a Slave, avait accepté le rôle. Son plan diabolique était de faire exploser une base des Nations Unies.
Intéressant.
Savais-tu, Gab, dans cette version du scénario, il n'y avait pas la séquence de poursuite d'avion en Autriche. Il y avait plutôt une séquence d'action décrite comme un mélange de ski et de parcours.
Oh!
Je sais pas ce que ça aurait pu donner.
Bon, t'sais, en fait, il aurait fait du Snowblade.
Ah, ça pourrait être très, très drôle.
Ben, je savais pas.
Attends, celle-là, tu vas l'aimer.
Ok, vas-y.
Savais-tu, Gab, que, au lieu de Monsieur Ings, qu'on retrouve dans le résultat final, le scénariste John Logan avait auparavant créé un personnage équivalent qui était une agente des Black Ops de la CIA nommée Charlotte. Le personnage apparaît aux mêmes intervalles que Ings, c'est-à-dire dans la scène de la découverte du corps de Monsieur White dans le chalet, ainsi que la poursuite en voiture à Rome et la séquence d'action en ski en Autriche. Au début de l'histoire, Charlotte est introduite comme une alliée de Bond avant qu'il découvre qu'elle travaille pour le Spectre. Pendant leur affrontement, lors de la séquence d'action en ski, Bond lui inflige la célèbre blessure au visage qui est historiquement reliée au personnage de Blofeld.
Oh là là! Ben moi, je veux dire, pour rebondir un peu là-dessus, vite fait, le vite fait, on n'a pas vu de vilaine dans la version Daniel Craig.
Ah, on est probablement... Il est probablement en temps.
On,
je
est,
sais
dû.
Que
on
Je...
est dû.
Je sais que l'actrice Jessica Chastain avait offert ses services, alors moi, je ne dirais pas
elle
non.
Elle a offert ses services?
Tout. Oui, tout à fait. Alors, je serais curieux de voir s'ils vont accepter l'offre.
J'espère qu'ils vont se réveiller.
Et pour finir, savais-tu, Gab, que John Logan a travaillé sur une deuxième version du scénario dans laquelle il a remplacé Amsterdam par Mexico, comme lieu où se passe la séquence d'ouverture du film? La grande différence, c'est que Moneypenny aurait été gravement blessé pendant le moment d'action et transporté à l'hôpital. Au final, ben, le consensus général des producteurs a été que cette réécriture du scénario était très inférieure à l'original et ils ont demandé à ce que les scénaristes de longue date de la série, Robert Wade et Neil Purvis, soient réintégrés dans l'équipe après qu'on leur ait fait clairement savoir que ce nouveau film serait fait sans eux.
Wow.
Aïe, aïe,
wow.
Aïe, quelle
T'imagines
histoire.
T'imagines aller à l'hôpital au Mexique.
Fouf. Ben, apparemment, ouais, ça serait un peu douteux, mais faisable. Un énorme merci, Gab, d'avoir été avec moi pendant ces quelques heures. Ça a paru comme une seconde à mes yeux. Ça a été super intéressant pour moi et j'espère aussi pour nos auditeurs. Alors, un dernier mot à dire avant qu'on se quitte?
Merci infiniment de m'avoir invité pour cette deuxième épisode. Ça m'a fait grand plaisir. Puis, il y a eu de bons débats. Il y a eu de bons débats, comme d'habitude. Tu es extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai très hâte de nous entendre discuter et de vous entendre, d'avoir vos commentaires, chers auditeurs, et puis à la prochaine fois.
En attendant, les amis, je vous souhaite une très belle journée. Merci énormément de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode de Sans commentaires ou presque.